19h-20h. Les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonsoir, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Vous le savez, c'est toujours un plaisir de commenter, analyser, décrypter l'actualité avec vous. Et on démarre ce lundi, toute nouvelle semaine, avec un programme au menu. On va vous accompagner avec plusieurs éléments. On reviendra sur ce Conseil national des imams qui continue de diviser au sein du culte musulman. Nous comprendrons cela, vous savez, avec un imam, justement, un des protagonistes qui sera avec nous dans une poignée de minutes. Il s'appelle Amar Lasfar, il est lui-même imam et ex-président de la Fédération des musulmans de France. On reviendra justement sur ce sujet qui ne cesse donc de faire parler de lui. Ensuite, vous le savez, j'ouvrirai l'antenne 01 53 48 3000 pour vous parler avec vous, échanger avec vous, comme tous les soirs d'ailleurs, partout en France, sur les sujets suivants. Nous reviendrons sur la crise sanitaire. Alors, est-ce qu'on peut redouter le chaos avec les gilets jaunes, avec cette liberté de chacun qui est menacée? Nous reviendrons aussi notamment, vous savez, sur gilets jaunes toujours, 3 ans plus tard, certains racontent effectivement le mouvement. On reviendra aussi sur un conseiller municipal, Dan Hidalgo, qui provoque une véritable colère en lançant à la vindicte populaire des noms de journalistes qui seraient des ennemis. On en parlera tout à l'heure. Et puis enfin, vous savez, on reviendra aussi sur ce week-end de violence, la Guadeloupe au bord de l'embrasement. Nous reviendrons donc sur ces sujets, notamment avec le face-à-face. Le face-à-face est avec Akil Miloli et Pierre-Henri. Voilà, vous le savez, les informés, c'est maintenant et en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Allez tout de suite l'invité actu.
Les informés, l'interview.
L'interview pour démarrer cette toute nouvelle semaine concernant donc ce tout nouveau, la création et la mise en place du CNI. Le CNI, vous savez c'est quoi? C'est tout simplement la création d'un conseil national des imams. Et c'est avec notre invité aujourd'hui qui est l'imam de la mosquée de Lille. Il est l'ancien président de la Fédération musulmane de France. Il s'appelle Amar Lasfar. Bonjour imam Amar Lasfar.
Bonjour monsieur.
Bonjour, bienvenue dans les informés sur BRFM. Dites-moi, alors, on parle beaucoup en ce moment du CNI, de la création du Conseil National des Imams. On voit le recteur de la mosquée défendre, évidemment, la création de ce CNI un peu partout dans les médias. Aujourd'hui, ça divise. Pour quelle raison?
Vous savez, ça reflète la situation des musulmans de notre pays. Ça m'étonne pas. Donc, nous sommes de l'intérieur. Nous avons toujours vécu, malheureusement, ces divisions, malheureusement, c'est une réalité amère que traverse notre communauté.
Le CNI, on a une explication d'ailleurs.
Bon, parce qu'il y a plusieurs qu'une explication. Parce qu'aujourd'hui l'islam de France, il est en chantier, il se construit tout doucement, mais il a un concurrent sur place, c'est l'islam en France. C'est une bonne partie de la communauté ou des membres de la communauté qui ne veulent pas se définir en tant que Français musulmans d'abord. Et nous gérons tout ça et nous comptons sur le temps que les choses vont s'améliorer.
Dites-moi,
donc, il ne faut pas brusquer les étapes. Oui. Aujourd'hui, nous avons une communauté qui compte par millions de personnes, donc 7-8 millions. Nous sortons d'une situation où l'islam était un prêt-à-partir, donc c'était une religion pratiquée par des immigrés, en grande majorité. Et là, nous sommes en train de traverser, de rattraper le retard, en se structurant, en s'organisant. Et d'ailleurs, ce dossier-là, le dossier des imams, est un dossier qui date depuis une vingtaine d'années.
Oui.
Il était sur le bureau du CFCM. Malheureusement, on n'a pas pu conclure. Là, aujourd'hui, nous sommes sur le point de conclure, mais dans un climat, oui, que je reconnais, de division. D'un côté, il y a le président du CFCM. D'un autre côté, il y a 4 fédérations fondatrices du CFCM.
D'ailleurs,
nous, on n'a pas voulu attendre. On n'a pas voulu attendre. On a dit, on a beaucoup perdu de temps. On va aller de l'avant.
Quand vous dites vous, Imam Amar Lasfar,
c'est les 4 fédérations.
Oui, y compris le recteur de la mosquée, donc y compris la grande mosquée de Paris. Mais dites-moi, Imam Amar Lasfar, vous-même, vous êtes un des acteurs de la mise en place de ce Conseil national des imams, lorsque vous voyez en face le CFCM déclarer vouloir lui-même aussi créer un autre Conseil des imams, national des imams. Est-ce qu'on finalement on va s'en sortir? Est-ce que ceux qui observent tout ça vont comprendre quelque chose?
Il faut juste un petit peu de bon sens, et d'ailleurs c'est ce qu'on fera. C'est ce qu'on fera à partir de demain. On rentrera en discussion avec Monsieur Moussaoui, président de l'UMF, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de CFCM, dans le CFCM, il n'y a rien aujourd'hui. Il n'y a que l'UMF. Il n'y a que l'UMF, l'Union des musulmans de France, que préside Monsieur Moussaoui. Et il y a bien sûr les Turcs, hein, donc souvent on dit les Turcs, les Marocains, les Algériens, etc. C'est une terminologie malheureusement qui ne doit pas exister. On ne parle pas de Marocains, d'Algériens ou de Turcs. Il faut parler de Français, voilà, de confession musulmane.
Oui.
Mais là encore, il y a une réalité qui nous rattrape, c'est qu'on parle encore Marocains, Algériens, Turcs. Ben, le CFCM aujourd'hui, il est vidé de sa substance. Quand les quatre fédérations ont quitté le bureau de CFCM, en l'occurrence la GMP, la Grande Mosquée de Paris, la Fayaka, l'Islam Q, l'Islam Africain, le RRF, hein, et puis Musulmans de France, nous sommes quatre fédérations fondatrices du CFCM. Nous avons quitté parce que nous avons estimé que l'objet, ce pourquoi le CFCM a été créé, malheureusement, il ne le fait pas. Il se contente des réunions.
Qu'est-ce que vous appelez de tous vos vœux, justement, pour celles et ceux qui vous écoutent, pour dépasser ces divisions, justement, vous, imam Lafsar?
J'appelle de mes vœux qu'on mette du bon sens et qu'on fait passer l'intérêt de la communauté musulmane française. Je suis fier de mes origines. Je suis d'origine du nord du Maroc, du Rif. Je suis fier. Mes origines sont dans mes veines, mais je les affiche pas. Je les affiche pas parce qu'il faut que je trouve un terrain d'entente avec l'Algérien d'origine, avec le Tunisien d'origine, le Moyen-Oriental d'origine. Sinon, si on fait parler nos origines, si on fait parler nos nationalités d'origine, on va pas construire quelque chose d'homogène.
Oui.
Donc, je m'appelle de mes voeux qu'on fasse justement, qu'on réfléchisse et qu'on construise un islam pour ceux qui vont venir, pour les troisième et quatrième générations, pour nos enfants et nos petits-enfants.
Vous-même, imam Amar Lasfar, justement, vous êtes aux côtés, donc avec comme acteur aussi avec le recteur de la mosquée de la Grande Mosquée de Paris. Lorsque vous créez ce Conseil national des imams de France, bien sûr, quel est l'objectif, justement?
L'objectif, c'est s'occuper de l'imam.
C'est quoi? C'est une labellisation? C'est quoi au juste?
Il y a la certification, mais il n'y a pas que ça. Parce que souvent, on met en avant le côté négatif de la certification. Qui dit certification, dit examen. Examen, on va noter, on va éliminer, on va, etc. Et non, la certification, il faut la prendre dans le sens de la reconnaissance de l'imam. Aujourd'hui, une bonne partie de nos imams vivent la précarité. Donc il faut les sortir de cette précarité. Statut de l'imam, le salaire de l'imam, la dignité justement de l'imam. Vient par la suite la formation initiale pour justement intégrer la fonction, et puis la formation continue pour pouvoir en quelque sorte armer suffisamment nos cadres religieux, nos moshidat, c'est-à-dire les femmes, les cadres religieuses femmes. Et nos imams pour qu'ils soient à la hauteur des défis du 21e siècle. Un imam qui exerce en France en 21e siècle, il a des défis. Il y a la radicalisation, il faut justement un contre-discours. Il y a de l'intégrisme.
Imam Lasfar, si vous vous retrouvez avec deux conseils nationaux des imams, qu'est-ce qui va se passer? Admettons que ce cas de figure se produit.
Moi, je veux pas que je prie le Seigneur à ce que ce cas de figure ne se produise pas. Mais si jamais il se produise, je suis encore optimiste. Il y a moyen d'entrer en discussion et de trouver une solution. Mais je pense que, et d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur et des Cultes recevra demain les quatre fédérations qui ont créé le Conseil national des imams. Sûrement, il va agir de son poids pour essayer de rapprocher les différentes structures pour pouvoir être à la hauteur des aspirations de, des musulmans dans notre pays.
Mais que peut faire l'État français au juste? Parce que quand on regarde, et on nous le rappelle systématiquement, la loi du 9 décembre 1905, qui d'ailleurs ne peut se mêler des querelles internes des différents cultes, qu'est-ce qu'il peut tenter de faire, lui, justement?
L'État, il doit continuer à être neutre, voilà, comme vous venez de dire, la loi du 9 décembre 1905, mais quand même, l'État observe. Observe. Il a d'ailleurs l'État.
Il agit en catalysateur, en quelque sorte.
A toujours joué du facilitateur. Sarkozy,
le catalyseur, pardon.
Voilà. Monsieur Sarkozy, quand il était président de la République, il a dit que l'État jouera le rôle du facilitateur. Et donc, il pousse justement dans le bon sens, mais sans s'ingérer. Et d'ailleurs, nous sommes vigilants. On ne laissera pas l'État français s'ingérer dans les affaires du culte.
Mais jusqu'ici, l'État a toujours joué ce rôle de catalyseur pour essayer de faire en sorte que les choses se déroulent justement sereinement. Est-ce que ces querelles-là ne risquent pas de nouveau, imam, l'ASFAR, d'entacher encore la religion de l'islam, les Français de confession musulmane, et puis y compris le Conseil français du culte musulman, qui lui est rentré clairement en querelle avec la création de ce tout nouveau Conseil des imams?
Quand on dit le CFCM, c'est l'émanation des fédérations musulmanes, des 9 fédérations qui composent en quelque sorte le CFCM. Aujourd'hui, 5 ils sont en dehors, 4 plutôt, ils sont en dehors du CFCM. Et il faut dire les choses, c'est que le CFCM est une structure qui a été créée en 2003 pour s'occuper notamment de ce dossier, de ce des imams. Depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, presque 20 ans, on n'a pas fait grand-chose. Et quand ces fédérations ont voulu rattraper le temps et créer quelque chose, le CFCM est en train de dire, moi je suis, ça me revient de droit, et c'est moi qui dois faire.
Oui,
pourquoi vous ne l'avez pas fait il y a 20 ans? Alors, aujourd'hui, nous disons, c'est vrai, c'est imparfait. C'est vrai, c'est fait dans des conditions que tout le monde sait. C'est vrai, il y a, nous donnons une image de division. Mais nous comptons sur le bon sens de tout un chacun pour pouvoir avancer et régler ce problème de l'imamat, de statut de l'imam, qui a beaucoup attendu. Hier, si vous étiez là hier à l'hôtel de Votel, mais on voyait justement l'attente dans les yeux des 500 personnes.
J'ai vu les vidéos, j'ai tout vu, effectivement.
Donc on a vu...
Beaucoup de monde.
Bien sûr, on a vu sur les visages des imams qui nous ont dit, mais écoutez, heureusement que vous avez fait quelque chose. On a attendu pendant 20 ans, mais voilà, aujourd'hui...
D'ailleurs, c'est l'imam Abdelali Mamoun qui nous a transmis tous ces éléments, parce que, effectivement, qui officie chez nous ici, auprès de Philippe,
nous avons,
sur l'antenne.
Si vous permettez, je vais lancer une petite fleur à mon ami, cher ami Abdelali Mamoun. Nous avons, voilà un peu le modèle de l'imam dont on a besoin en France. Quelqu'un qui sait très bien qu'est-ce que c'est que la France et l'histoire française. Quelqu'un qui maîtrise très bien le verbe en tant que français. Quelqu'un qui a fait des études théologiques et est jeune aussi. Donc, il nous faut, voilà, le portrait type, un peu, d'un imam dont nous sommes en train, justement, de construire. Mais à terme, aujourd'hui, la réalité est là. Nous avons hérité de beaucoup d'imams qui font l'affaire. On va les former, on va leur assurer la formation continue, mais nous rêvons d'imams nés en France, qui officient en France, et qui maîtrisent la langue de Molière, et qui posent les problèmes que rencontrent et que vivent les musulmans de notre pays.
Vous vous êtes réunis, si j'ai bien compris, à la Grande Mosquée de Paris pour poser évidemment les jalons de ce Conseil National des Imams. Dites-moi, Amar Lasfar, justement, quels sont les prochains chantiers qui vous attendent? Quelle est la priorité, justement, concernant les imams de France?
On s'est réunis donc le dimanche matin dans le cadre de l'Assemblée Générale du CNI, parce que l'après-midi, c'était les assises des imams. Mais le matin, on a fait le travail sur le plan administratif, donc on a adopté les statuts, les grilles, notamment de certification des imams. Il y a l'imam des 5 prières, l'imam qui est conférencier le vendredi, qui prêche le vendredi, et puis l'imam conférencier, c'est-à-dire le mufti, quoi. Donc on a adopté tous ces éléments, on a élu un bureau avec un président. Le travail a été fait le matin et on a eu l'honneur d'avoir le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, qui était de passage à la mosquée de Paris, donc avec sa femme et son bébé, et il nous a salué, hein, il nous a dit, donc il a vu donc la réunion, et il a salué, et d'ailleurs il a invité les fédérations demain au dîner. Oui. Ça c'est le travail le matin. Oui. Là on va mettre l'accent sur quoi ? On va mettre l'accent d'abord sur la certification. Donc on va aujourd'hui recevoir, ne serait-ce qu'on va commencer par les 350 ou 400 imams qui étaient présents hier, on a leur nom, on a leur adresse, on a leur adresse mail, on va justement leur demander de constituer un dossier d'agrément. Et on va agréer justement les imams aux différentes catégories. Chaque imam est libre de demander quel est le grade, hein, qu'il veut, et on va les faire passer dans une commission, hein. Et d'ailleurs, M. Mamoun Abdelali, il est chargé de la commission de déontologie, de l'éthique. Mmh. Hein, donc, on va commencer par ces 400-500 imams qu'on va certifier, premièrement. Deuxièmement, tout de suite, l'imam que nous jugeons a besoin d'une formation, on va lui assurer une formation continue,
oui, oui,
pour qu'il puisse justement exercer dans la vie. En plus, après ça, on va poser la question du statut de l'imam.
Donc c'est un moment historique, si j'ai bien compris, mon cher imam.
La date du 21 novembre 2021, il faut l'inscrire au même niveau que la date de 1986 avec Pasqua, 1989 avec Jox, 1994 avec Jean-Louis Debré, 1999 avec Jean-Pierre Chevènement et 2003 avec Sarkozy.
Ce sera ma dernière question, Imam Amar, Lasfar, justement, qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux qui vous écoutent, partout en France d'ailleurs, qu'est-ce que vous appelez comme vœu, évidemment, quand on voit ces tensions, qu'est-ce que vous voulez transmettre comme message, quand on voit ces querelles, qu'est-ce que vous avez envie de dire, tout simplement, Imam Amar, Lasfar?
Loin de moi de relativiser la situation amère que je viens de qualifier tout à l'heure, mais je dis, l'islam de France, il est récent. Il a 20 ans à 25 ans. Les divisions existent dans toutes les communautés de France et de Navarre, religieuses ou pas religieuses.
Oui.
Mais loin de moi de les reconnaître en tant que telles. Seulement, je demande aux musulmans et aux concitoyens qui nous observent d'être indulgents et de laisser l'islam se constituer, l'islam de France se constituer, il est récent. On ne peut pas demander aux musulmans de France de faire en peu de temps ce que les autres ont fait en plusieurs siècles.
Eh bien, donc, merci.
Faisons leur confiance et poussons-les vers l'évolution qui est la leur.
Merci Imam Lasfar, justement, vous êtes imam de la mosquée de Lille, mais vous êtes aussi également l'ancien président de la Fédération musulmane de France. Aujourd'hui, vous êtes l'un des créateurs, l'un des acteurs, hein, de la mise en place de ce tout nouveau Conseil national des imams. Merci infiniment, imam, d'avoir été avec nous dans Les Informés.
C'est moi.
19h18, on va marquer une pause pub et on va se retrouver 01 53 48 3000. Eh bien, je voudrais vous entendre, justement, réagir, échanger avec vous sur la création. Est-ce que vous pensez que cela peut faire avancer le débat concernant les imams de France? 01 53 48 3000, on retrouve le face-à-face avec nos débatteurs.
Les Informés revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, Les Informés avec Adil Farkan.
Il est 19h24 précisément et nous sommes justement dans Les Informés jusqu'à 20h ensemble, oui. Allez, l'antenne est ouverte, le standard est ouvert surtout aussi, c'est parti.
01 53 48 3000. Les Informés vous donnent la parole.
Nous restons à Lille, nous étions avec l'imam de Lille, et nous restons à Lille avec un auditeur qui s'appelle Mohamed. Bonjour Mohamed, bonsoir Mohamed.
Bonsoir.
Bonsoir, bienvenue.
Je m'excuse auprès de Beurre FM, merci de me recevoir. Moi je suis toujours en décalage en fait, avec les émissions que vous faites.
Il ne faut pas être en décalage, cher ami, hein, il faut être en direct.
Ouais,
oui, quand on rate le train, on prend le prochain.
Non, moi je pars à pied.
Eh ben voilà, vous faut prendre le prochain, cher ami.
Vous savez quoi? Je vais vous parler de quelque chose qui n'est pas du tout le sujet. En fait, moi, hier, quand j'avais intervenu avant-hier, il y avait quelqu'un qui s'appelait Jean-Pierre Taude, je sais pas comment,
oui.
Il nous a parlé du Covid. Il nous a dit, il y a une vague, une grosse vague qui arrive, en fait, un océan.
Oui. On en parle tout à l'heure.
Arrive, oui. Là-bas, un océan et tout. Et moi, j'écoutais son discours et tout, catastrophique. J'avais envie de lui dire, franchement, qu'on nous donne, c'est pas des arguments scientifiques. Allô ?
Oui, on vous écoute.
Donc, je dis simplement, moi, je me doutais largement à l'avance qu'avec l'arrivée de l'hiver, l'arrivée de l'hiver avec la toux, avec des choses comme ça, on allait sortir l'histoire du Covid.
Bah, il y a la grippe, il y a le Covid, il y a effectivement tout ça est mêlé.
Pour moi, je remercie.
Qu'est-ce que vous dites, Akli? Oui, qu'est-ce que vous dites? Vous remerciez cette émission? Bah, écoutez, ça nous fait plaisir.
C'est une émission qui nous permet de parler parce que c'est pas beaucoup de radios qui le font.
Ah, ça c'est vrai, je vous le confirme.
Je vous promets, hein, parce que les gens sont filtrés suivant qu'ils sont contre. Ils sont prêts, on ne veut pas les entendre. Alors moi, sur RMC, il y a des gens qui aussi font la promotion de du vaccin à fond. Vous êtes là?
Oui, on vous écoute.
À fond. Après, c'est Beurotin qui le fait. J'ai envie de leur dire aux scientifiques, à tous ces gens qui ne savent pas grand-chose, vous n'allez pas aller bien loin parce qu'il n'y a rien du tout. Il y a une étoile là-haut.
Il y a une étoile,
ni loin, ni assez loin.
Vous faites plaisir. Merci Mohamed, merci.
Toutes les conditions, ils ont été mises pour qu'on soit bien.
Merci, mon cher Mohamed, pour votre intervention. D'ailleurs, vous faites réagir nos débatteurs influenceurs. Pierre-Henri, qu'est-ce que vous voulez dire? Merci Mohamed, je vous libère. Et ensuite, Akli Mellouli.
Ce que je veux dire, c'est une chose très simple qui a été répétée 100 000 fois. Le vaccin protège et on n'a pas mieux, jusqu'à preuve du contraire.
Voilà ce que vous dit donc Pierre-Henri, mon cher Mohamed. Akli Mellouli.
Oui, alors,
vous vouliez réagir aussi, ouais, j'ai vu que vous parliez.
Vous aviez marmonné quelque chose en attendant. Je pense qu'aujourd'hui, on manque de recul pour savoir jusqu'où ça protège et si c'est. Parce qu'en fait, c'est le Covid.
Ça fait débat. Allez.
Non, mais attendez. Là, moi, je vaccine, je suis pas dans le complotisme ni dans le béatisme. Donc, il faut faire attention, mais, de pas tomber là-dedans. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, de toute façon, le Covid, ouais, c'est une forme de virus de grippe
milieu,
et tout ça.
Il faut faire attention, hein.
Non, mais je suis pas au milieu. Moi, jamais au milieu. Non, ce que je suis en train de dire, Pierre-Henri, c'est que, en fait, moi, je suis vacciné, c'est pas le problème. Mais, on manque de recul. Et d'ailleurs, on s'étonne pourquoi, effectivement, aussi, ils interdisent tel vaccin, pas tel vaccin.
Dans les hôpitaux, parce que on manque pas de recul. On sait très bien qui rentre aujourd'hui en réanimation.
Non, mais on le sait. Oui. Et même, il y a des gens qui sont vaccinés qui y rentrent, hein, je te rassure. Oui. Moi, il paraît que c'est moins grave. Il paraît qu'on nous dit, non, mais ils nous disent c'est moins grave et tout ça. Moi, ce que je veux dire par là, c'est que, moi, ce qui je pense, c'est qu'on interdit des vaccins.
C'est bien cette séance, parce que beaucoup de gens pensent comme ça.
Par exemple, les vaccins russes, les vaccins de la Chine, tout ça, alors que eux, ils sont sur, nous, ils sont pas ARN, ils ont d'autres formes, et apparemment, ceux-là aussi fonctionneraient, puisque dans d'autres pays où ils les ont mis, ils fonctionnent. Donc,
c'est ça qui doit faire des gens. Protège, et protège notamment. C'est ce que je suis en train de dire.
J'ai dit pourquoi on prend certains et d'autres, voilà.
Et donc, vaccinez-vous, les gars.
Moi je le suis, donc c'est à tour.
Amine, après bon, les autres qui ne. Moi j'ai beaucoup d'auditeurs qui ne sont pas vaccinés.
On peut s'interroger.
Amine de Nanterre. Bonjour mon cher Amine, bonsoir.
On aurait dû te protéger.
Bienvenue Amine.
Merci beaucoup.
On vous écoute.
Grâce aux informés, je suis informé, hein, maintenant.
C'est génial. Voilà, vous méritez une clochette.
Je suis informé qu'au fait qu'il y a une guéguerre. Je reviens sur le sujet du jour. Hein. J'ai écouté votre invité, votre imam.
Oui.
Donc, je suis informé qu'il y a une guéguerre. Oui. Malheureusement, j'ai envie de dire encore une guéguerre. Sans être vulgaire, j'ai envie de dire qu'au fait, ces gens-là, ils me représentent pas, moi, personnellement. Je sais pas, en fait, j'ai mis quelques réserves quelques propos, au fait, de l'imam. Il disait, au fait, je suis d'accord, des musulmans de France, mais un islam de France, j'ai du mal à comprendre le concept islam de France.
Il n'en a pas parlé de l'islam de France, je crois pas. Non, du tout. Il a dit l'organisation des imams, la formation, l'accompagnement. Il a beaucoup parlé de cela, beaucoup.
Je pense, peut-être que je me suis trompé, mais il a dit le terme un islam de France. Et moi, en fait, cet islam de France, je comprends pas ce que c'est un islam de France. Est-ce que, au fait, à travers cette guéguerre, on veut installer.
Akli nous précise que c'est un islam en France.
Islam en France, je sais pas, peut-être que. Mais du coup, au fait, c'est juste pour vous dire que, au fait, ces gens-là. Sans leur manquer de respect, aujourd'hui, ils ne me représentent pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire.
Oui.
Et puis, un ras-le-bol, quoi.
Eh bien, vous l'avez dit. Vous l'avez exprimé. Il faut aussi l'exprimer. Il faut appeler aussi pour l'exprimer, le dire clairement. Amine, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et très belle soirée. Akli Mellouli, Pierre-Henri, le face-à-face, avant de retrouver le quoi de neuf, comme tous les lundis, de Maître Philippe-Henri Honegger. Le face-à-face.
Les informés, le face-à-face.
Akli Mellouli, qui est un élu, maire adjoint sur Bonneuil-sur-Marne. Bonjour mon cher Akli, bonsoir.
Bonsoir Adil.
Pierre-Henri, le patron de France Fraternité. Bonsoir mon cher Pierre-Henri.
Bonsoir,
messieurs, la crise sanitaire, vous le savez, regardez la crise sanitaire. On est en train d'observer en Europe la remontée de certaines tensions dans les rues, où des dizaines de milliers de personnes ont décidé de s'emparer des rues pour crier et faire valoir évidemment leur liberté. On va en parler dans une poignée de minutes parce qu'y compris
liberté
ce week-end.
De contaminer.
Non, pas la liberté de contaminer, oui, selon peut-être vous. Mais en tout cas, la liberté d'agir. Et d'ailleurs, les Gilets jaunes l'ont exprimé ce week-end. À Bruxelles, ils ont. Alors, c'est même d'ailleurs, c'est parti un peu en tension. Et puis aussi, partout en Europe, on a aussi ici et là quelques manifestations qui font entendre leur voix. Tout de suite, avant de vous entendre, messieurs, c'est le Quoi de Neuf, comme tous les jours.
Les informés, le Quoi de Neuf.
Le Quoi de Neuf, c'est avec Maître Philippe Henri en Eger, cher Rubénès aussi. Bonjour, mon cher maître.
Bonjour.
Comment ça va ?
Eh bien, ça va très bien. Très, très bien.
Vous allez parler de votre billet d'humeur aujourd'hui, du retour du bagne. On vous écoute.
Oui. En fait, je vous dis que ça va bien parce qu'en fait, j'ai une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle.
Ah, c'est rare.
Eh oui, c'est rare, c'est pour ça. C'est que le secret des avocats, vous savez, dont je vous ai parlé il n'y a pas si longtemps, a été sauvé. Alléluia. Ah. Et quand je dis le secret des avocats, je veux dire votre secret, vos secrets, le secret de tous les gens qui viennent dans nos cabinets et qui nous confient leurs secrets. Eh bien, les avocats se sont battus parce qu'ils étaient en danger. Oui,
parce que j'étais inquiet quand vous avez fait votre billet d'humeur. Hein.
J'étais très inquiet aussi.
Ben, je m'en rappelle.
Et les avocats sont battus et ils l'ont sauvé. La confidentialité de nos cabinets a été préservée.
Ah.
La police ne pourra plus venir y fouiner.
Ah.
Vous pouvez continuer à tout nous dire. Et tant mieux.
Vous êtes sauvé, mon cher maître.
Et c'est une bonne nouvelle. Il faut s'en réjouir parce que des bonnes nouvelles, il n'y en a pas tant que ça. Et malheureusement, la mauvaise nouvelle, c'est que le bagne, effectivement, va peut-être bientôt être rétabli. Vous savez, le bagne, je ne sais pas si vous avez vu le film Papillon avec Dustin Hoffman.
Oui.
Le bagne, c'est cette magnifique institution pénitentiaire de la République française, abolie en 1953 parce que la moitié des personnes, malheureusement, y mouraient dès la première année. Cette belle institution jugée inhumaine et dégradante, cette sorte, vous savez, d'esclavage judiciaire qui a été la honte de notre République, un peu comme l'affaire Dreyfus qui lui-même y a été envoyé. Eh bien, réjouissons-nous. Car grâce à M. Dupont-Aignan, si celui-ci est élu président de la République, il entend ouvrir les bagnes pour y mettre les terroristes. Alors, son idée, ça ne serait pas de mettre son bagne à Cayenne, vous savez, sur l'île du Diable, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas les terroristes qui vont sur l'île du Diable, mais les touristes. Non, son idée... C'est d'établir un bagne sur l'île de Kerguelen, une petite île au sud-est de l'Afrique, juste à côté de l'Antarctique, aussi appelée île de la désolation. Et effectivement, il y a de quoi être absolument désolé devant une telle proposition. Alors évidemment, c'est en contradiction absolue avec tous les droits de l'homme et leur construction depuis une centaine d'années, mais surtout c'est totalement inepte. C'est totalement inepte. Alors, au-delà des conditions inhumaines, dégradantes, de l'éloignement de la famille, de l'impossibilité d'avoir accès à toutes, je dirais, les prestations habituelles quand on est respectueux des droits de l'homme, le principe même du bagne, historiquement, c'est les travaux forcés. Et les travaux forcés ne marchent qu'à partir du moment où on force les personnes à travailler, c'est-à-dire à partir du moment où on les violente pour qu'elle travaille. En fait, ce que demande ce monsieur, c'est pas le rétablissement du bagne, c'est-à-dire la sorte de proposition un peu sympathique de dire on va éloigner des gens, même si ça n'a en réalité aucun sens. Non, en fait, ce qu'il demande en rétablissant le bagne, c'est le rétablissement du fouet, le rétablissement de la torture. Vous voyez ? Eh bien, c'est une torture intellectuelle pour moi, une torture juridique de notre état de droit d'entendre ça venant de celui-là, sachant que dans ce concours aux idées stupides, on a aussi monsieur Éric Ciotti qui, dans le même temps, lui propose l'ouverture d'un Guantanamo à la française. Mmh. Autre innovation, vous savez, Guantanamo, torture également qui était rétablie là-bas, égalité totale, absence totale des droits, mais à la française, je sais pas si vous vous souvenez, Guantanamo, pour torturer les gens, on leur faisait écouter du Britney Spears à fond les oreilles pendant des heures et des heures. Peut-être que le Guantanamo à la française, ça serait la même chose, mais on ferait écouter du Adele ou du Jacques Brel. En tous les cas, ça serait ça la version francisée pour monsieur Eric Ciotti. Dans tous les cas, deux propositions absolument ineptes, complètement dingues. C'est vraiment la course à l'échalote des propositions qui n'ont aucun sens. En fait, on nous demande de choisir entre état de droit et état de droite. Mon choix est déjà fait.
Eh bien, merci pour ce billet d'humeur qui, certainement, comme chacun de vos billets d'humeur, feront réagir. Merci, mon cher maître Philippe-Henri Honegger, cher Rubinet associé. À lundi prochain, sans faute.
À lundi prochain, avec plaisir.
19h35, messieurs, nous marquons une très courte pause pub et je voudrais vous entendre sur cette manifestation anti-mesures sanitaires qui s'installe en Europe. Doit-on s'inquiéter, messieurs ? Doit-on craindre même le chaos ?
Les informés revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
19h38, le face-à-face.
Les informés, le face-à-face.
Sur les sujets qui ont retenu notre attention de ce jour, justement, on va parler de ces manifestations qui s'installent un peu partout en Europe concernant les anti-mesures sanitaires. Notamment, on a vu les images à Bruxelles, on a vu les images des Gilets jaunes, le retour des Gilets jaunes. Messieurs, que doit-on dire? Quelle interprétation doit-on avoir? Et puis surtout, peut-on craindre le pire scénario? Pierre-Henri, ensuite à Klim et Loli.
Je crois que ce qui est en train de se passer en Europe est en réalité assez classique, parce qu'un certain nombre de pays européens avaient retardé la mise en place du pass sanitaire. Mmh. Et la France a été un des premiers à le faire. Il y a eu un certain nombre de manifestations, on s'en souvient, en plein été, avec au pic de mobilisation, un peu plus de 200 000 personnes. Et aujourd'hui, des pays comme les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne prennent des mesures extrêmement drastiques face à ce qu'on appelle la cinquième vague. Et vous avez un certain nombre de gens qui, en Europe, sont gagnés par le scepticisme vis-à-vis du vaccin et qui en profitent pour instrumentaliser.
Très bien, mais essayons de voir, oui, évidemment, un peu loin. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a pas un risque d'embrasement européen?
Je crois pas. Je pense que ça va faire exactement comme en France, c'est-à-dire que la mobilisation va s'essouffler et que évidemment la raison finira par l'emporter, parce que on n'a pas d'autre solution aujourd'hui que le vaccin. Encore une fois, on le disait tout à l'heure, mais je crois qu'il faut le marteler. Le vaccin empêche le développement des formes graves de la maladie, et on voit aujourd'hui en France une résurgence.
Attaques mondiales contre la liberté d'expression, les attaques justement mondiales,
ont eu le vaccin, cher Adil.
Je parle de la pandémie, je parle du vaccin, tout cela est mêlé dans un mot qui nous ramène.
Il y a une atmosphère de complotisme, oui.
Oui, exactement. Ce qu'on appelle cette liberté d'agir, les libertés d'expression, la liberté de faire comme on l'entend, a eu un impact un peu dévastateur, notamment sur la planète. Vous voyez bien les images. Akli Meloli. On va continuer d'en parler.
Adil, moi je ne veux pas qu'on tombe non plus ni dans le scepticisme, ni dans tout ça. Mais la vraie question, c'est effectivement, aujourd'hui, Pierre-Henri dit qu'effectivement, pour l'instant, on a ça, peut-être bientôt d'autres traitements. Mais en même temps, est-ce que la question en fin de fond, c'est est-ce qu'on peut imposer, est-ce que ça porte atteinte à la liberté? Et c'est quoi les libertés? Parce que c'est ça qu'il faut se poser. Est-ce que les gens ont le droit de se vacciner ou pas? Ou est-ce que c'est une vaccination obligatoire? Là-dessus, on n'a pas tout à fait répondu.
Débat strictement européen.
Oui, oui.
On est devant une inégalité vaccinale dans le monde.
C'est ce que j'allais dire. Parce qu'il y a des pays qui n'ont pas cette possibilité. Et d'ailleurs, on s'en préoccupe très peu. Mais là, c'est une vraie question. Mais ce que je disais, effectivement, on a le débat. Moi, ce que je trouve, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on a quand même beaucoup de gens qui viennent raconter des choses. Et il faudrait peut-être aussi, parce qu'on a 20 ans, juste, éviter peut-être que des gens viennent renforcer le scepticisme, ça, dans leurs interventions, la façon dont ils présentent les choses, y compris ceux qui sont pour l'accélération, etc. Donc, à un moment donné, je crois que les gens sont perdus. Moi, je parle avec les gens dans la population. La ville de Bonnet était une des premières villes à avoir et c'est vrai que les gens avaient du mal. C'est vrai qu'il y a des effets secondaires. Il faut regarder, il faut mesurer. Et effectivement, aujourd'hui, la question qui se pose, est-ce que les règles du jeu sont les mêmes pour tout le monde? Est-ce que la vaccination, elle est obligatoire ou pas? Parce que si elle, normalement, c'est aussi ça, les libertés, jusqu'où on va? Parce que le problème, souvent, ils me disent, oui, mais c'est ma liberté. Sauf que, est-ce qu'on met en danger ou pas les autres? Et parce que c'est ça, nos libertés s'arrêtent là où commencent les autres. Donc, il y a un vrai débat qui, à mon avis, s'est mal instauré et qui crée aujourd'hui tout scepticisme ou le bâtiment de certains. Moi, je le dis, j'ai été vacciné, je sais pas si j'ai bien ou mal fait. En tous les cas, j'ai essayé de faire pour essayer de me protéger, autour de moi. Si tant est que ça protège réellement, mais il y a effectivement aujourd'hui. Non, mais on démontre aujourd'hui qu'il y a eu, ça a eu un effet. Donc je dis, après, les gens me disent oui, mais ça va te modifier, etc. Je pense que ça s'évacue très vite, l'ARN. Alors d'ailleurs, c'est une cellule, c'est une souche, c'est ça, oui, qui est très bonne pour la lutte contre le cancer, donc c'est bien et tout. Par contre, ça a, le vaccin, moi je parle de ceux que je connais, en tous les cas, il y a des incidences sur une partie de la population, certaines parties de la population. Donc il faut effectivement avoir un suivi, un meilleur traitement, mais en même temps, il parlait, Pierre-Henri, et à juste titre, de l'inégalité entre les pays africains, pour ne pas les citer, et les Européens, etc. Et en même temps, il y a aussi une autre inégalité, c'est-à-dire que nous, en France, on a fait le choix de réduire drastiquement nos lits d'hôpitaux. Mmh. Donc on a aussi cette difficulté de pouvoir accueillir les gens.
Qui
donc en fait, on est dans une espèce de nasse.
La liberté, c'est pas d'accueillir des gens en réanimation.
Je suis d'accord.
Soyons très clairs, l'hôpital est dans une situation absolument dramatique et depuis plus de 10 ans.
Plus de 10 ans.
Et c'est pas parce qu'on aura plus de lits que d'un seul coup, ça serait la liberté. Non, d'accueillir les gens en réanimation.
Non, c'est pas la liberté de les accueillir. Non, je parle pas de les abonnés. Je disais, quand on a un hôpital avec plus de lits, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, Pierre-Henri, c'est qu'aujourd'hui, on est obligé de sélectionner les malades. C'est ça que je veux dire, parce que des malades, il y en a beaucoup. Il y a des gens dont on retarde. C'est même pas, choisir d'accueillir. C'est qu'on ne peut pas accueillir les gens. C'est-à-dire que quand il y a effectivement cette situation de Covid, ça nous fait sélectionner des malades et on prend avec des priorités. Ce qui ne peut pas être le cas en termes d'égalité et de liberté. On doit accueillir tout le monde à l'hôpital.
Pierre-Henri, et on avance.
Là où je te rejoins, c'est tout simplement le fait qu'on ait véritablement un débat sur l'hôpital, sur son avenir. Et ça, c'est un vrai débat pour la présidentielle et on n'en entend pas parler.
Et un autre débat aussi, Pierre-Henri, il y a quand même un débat, au-delà de lui, il y a quand même un débat à avoir sur l'utilité de certains médicaments, parce que les gens aussi ont vu qu'on a déclassé des médicaments, et ça c'est aussi un vrai débat sur effectivement la santé, est-ce que c'est un aspect marché, ou est-ce que la santé c'est avant tout l'intérêt de l'humain, et ça c'est un vrai débat aussi, parce qu'on va, on a quand même beaucoup de placebo, et tu connais ça mieux que moi, et ça c'est un vrai problème, et c'est pour ça que ça rend les gens sceptiques, c'est dommage, parce qu'il y a vraiment un débat de fond à avoir.
Autre sujet, messieurs, j'aimerais qu'on avance, et autre aussi, un sujet qui a provoqué un vrai tollé, c'est Julien Ripert, le conseiller municipal proche d'Anne Hidalgo, qui lui, évidemment, a listé sur Twitter des journalistes qui sont les ennemis, donc des ennemis et des ennemis des journalistes ennemis. J'ai envie de dire, bon, drôle de conception, mais en tous les cas, on voit les noms de la Villardière, Pascal Praud, Jean-Marc Morandini, Olivier Truchot et d'autres. Et d'autres. Alors, bon, je ne sais pas comment est-ce qu'on doit qualifier les journalistes d'ennemis, Pierre-Henri.
Non, des journalistes engagés, il y en a foule. Il y a aussi des chroniqueurs qui sont engagés. Il y a des chaînes d'information, puis il y a des chaînes d'opinion à la Fox News, telles que CNews, par exemple. Voilà, mais je crois surtout que ces propos reflètent la difficulté aujourd'hui de la candidate socialiste de percer dans cette campagne.
Oui.
Elle a démarré sa campagne en expliquant que, à titre personnel, elle était pour les 110 à l'heure sur l'autoroute. Ça, c'est sûr que sortie de Paris, ça fait un véritable buzz. Elle a commencé sa campagne en expliquant que elle allait partir en guerre contre le wokisme. Contre quoi ? Le problème, c'est que le Parti socialiste n'a pas travaillé pendant ces 5 ans. Et qu'il arrive à cette présidentielle sans avoir renouvelé ses cadres et sans avoir véritablement de programme.
Est-ce qu'on peut considérer que c'est un dérapage de ce conseiller municipal ? Non ?
L'expression d'un désarroi aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de journalistes qui sont tout à fait critiquables dans leur façon de mener les débats, de les analyser et de banaliser un certain nombre de propos qui sont qui relèvent du révisionnisme. Je pense évidemment à Monsieur Z, sans vouloir le nommer une fois de plus.
Akli Melouli. Alors, concernant ce sujet.
Voilà, je partage ce que dit Pierre-Henri, c'est-à-dire qu'en fait, Anne Hidalgo, paye quand même une entrée en campagne avec un parti qui n'a pas travaillé. C'est-à-dire que ça fait 30 ans qu'on n'a pas renouvelé les idées de gauche, qu'on n'a pas aujourd'hui réaffûté nos discours et qu'on a perdu pied en essayant de courir derrière l'opinion way, etc. Ce qui, donc là, les sondages. Et il faut revenir aux valeurs de gauche. Mais effectivement, sur ce qu'il dit, bon, il le dit lui à sa façon, moi je vais pas commenter, mais en même temps, aujourd'hui, on a un vrai problème au niveau des médias. Aujourd'hui, on a très peu de journalistes.
Ah, je sens que vous
C'est-à-dire que sur les plateaux, alors. Attendez, on sait comment ça fonctionne.
Dites-le,
sur les plateaux, on voit toujours les mêmes personnes. C'est-à-dire que la diversité d'opinion n'existe pas. C'est d'ailleurs aussi c'est avec ces spécialistes médicaux, ça revient à la crise sanitaire, qui est fonction, ce sont toujours les mêmes qui viennent répéter les mêmes choses. On a l'impression à la fin qu'ils sont payés pour le faire. Je dis pas qu'ils le sont, mais en tous les cas, ils en donnent l'impression à la population qui regarde. Moi, je parle avec les gens me racontent. Et donc aujourd'hui, on a une paresse intellectuelle qui se retrouve dans le politique, surtout un peu partout. Et ça touche les journalistes, ce qui est grave. Parce que
abaissement du débat.
Et les journalistes, aujourd'hui, c'est devenu des fan clubs. Il a dit, c'est des journalistes d'opinion. C'est-à-dire que, en fait, ils ont décidé qu'ils soutenaient un tel, que c'était leur candidat. Et ils vont même s'attaquer entre eux. Moi, j'ai entendu des gens attaquer des journalistes d'autres grandes chaînes en disant pourquoi ils ne le reçoivent pas. En fait, on dirait aux autres, en fait, les journalistes disent aux autres journalistes qu'ils devraient faire. Alors, en principe, le journaliste doit aller vers l'info. On n'a pas besoin de lui dire. Il va vers l'info, celle qu'il pense juste, parce que c'est aussi ça, la liberté d'expression et de pensée. Moi, je suis pas dans l'uniformité. Moi, je trouve que d'abord scandaleux quand quelqu'un s'exprime contre l'islamo-gauchiste parce qu'il défend l'islam en France, mais, ou d'autres parce que on stigmatise les gens, on évite le débat. Donc, je trouve qu'il y a un évitement du débat et on est dans le prosélytisme et non plus. Et d'ailleurs, je reviens dans la laïcité, le prosélytisme, et qu'on a, puisque en réalité, c'est pas la religion qui est interdite, c'est le prosélytisme religieux. Et ça, aujourd'hui, les gens font du prosélytisme politique, du prosélytisme d'idées, et on n'est plus, c'est grave,
de souligner les excès, il peut y avoir d'un certain nombre de termes, oui.
Je finis juste un mot. Aujourd'hui, le journaliste en réalité, il est pas, en fait, si les journalistes, il est là pour informer, non pas faire du prosélytisme. Et donc, c'est ça qui me pose problème. C'est quand ça vient de gens médiatiques. Ceux qui font du prosélytisme, quand on est, curé rabbin dans la région d'un truc, c'est normal qu'on en fasse. Quand on est politique et qu'on défend des idées, des valeurs, qu'on fasse du prosélytisme pour ses idées, ses valeurs, c'est le but du débat démocratique. Oui. Mais quand on est journaliste et qu'on doit effectivement informer, c'est le souci et c'est le cœur de métier qui aujourd'hui doit être interrogé.
Le problème, c'est qu'on fait une différence aujourd'hui entre le journalisme et le chroniqueur.
C'est ça. Et l'animateur.
Et l'animateur. Et que, à la fin, on sait plus qui en a en face. Avec des journalistes qui ne vérifient pas leurs sources, infos, qui affirment un certain nombre de choses, qui partent au front, parce que c'est aussi le modèle économique sur
la course à l'audience.
Sur la course à l'audience, sans avoir le temps, véritablement, de travailler le sujet. Moi,
c'est
j'ai
ça.
J'ai beaucoup d'amis journalistes qui sont envoyés le matin par leur rédacteur sur des sujets qu'ils ne maîtrisent absolument pas. Mais Coco, il faut que tu me ramènes le papier pour 17h. Et ça donne des choses absolument. Et c'est la raison pour laquelle les Français aujourd'hui sont très méfiants à l'égard des médias.
C'est vrai, j'ai vu
Voilà. Alors. Et le problème, c'est aussi que le politique répond à cette médiocrité avec des débats absolument catastrophiques. Je pense par exemple au débat de la primaire de la droite. Mais quelle catastrophe!
La surenchère. Tout à l'heure, on parlait justement du podium, le gars qui parlait. On a assisté à une surenchère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, ils nous envoient un Guantanamo, je sais pas où. Bientôt, ils vont nous créer un ban sur Mars. En fait, c'est celui qui dira la plus grosse connerie qui est cet élu.
Par exemple, on voit quand même, pour la présidentielle française, cinquième pays du monde, Michel Barnier, qui a été commissaire européen, propose qu'il y ait moins d'étrangers en France. Voilà un projet pour le monde. Un projet universel pour le monde. Moins d'étrangers en France. Mais c'est de la folie.
Non mais dans la même phrase, j'ai entendu aussi des gens dire immigration zéro et deux minutes après, on mettra des quotas. Mais les quotas, c'est pas immigration zéro. Donc en fait, ils savent que c'est pas possible en plus. Et donc c'est là où on assiste et les gens écoutent ça et se disent mais c'est quoi ces gens? Mais
alors, bien sûr. Messieurs, merci infiniment. Nous arrivons au terme de cette émission. Déjà, on n'a même pas pu traiter un mot de quelques secondes, la Guadeloupe. Va s'en sortir la Guadeloupe?
Elle va s'en sortir, c'est une situation assez catastrophique sur le plan économique et qui ne date pas d'hier.
Gestion
de l'eau, gestion de l'hôpital,
tout.
Évidemment.
D'une phrase.
d'une phrase. Pierre-Henri, je suis là, je suis d'accord, je parle tout à fait. Je crois que la problème des ultramarins est une vraie problématique qu'on n'a pas traitée depuis très longtemps, et les gens ont l'impression de vivre des discriminations, de ne pas profiter effectivement de leurs îles, de leur travail, comme les autres, et qu'ils sont toujours les discriminés et les diminués, et en plus au rabais. Et
merci.
Ça, c'est problématique pour
en
eux.
Sachant quand même
merci
que,
à Klim Elouli.
Qu'on verse beaucoup d'argent.
Absolument. Mais merci à Klim Elouli, élu, maire adjoint sur Bonneuil-sur-Marne. Merci au patron de Fraise Fraternité. Pierre-Henri, au plaisir, messieurs. Bilan Lendman, 20h-21h, qu'est-ce qui nous attend ce soir au sommaire? Attendez, on va ouvrir votre micro.
Une actualité assez chargée, Adil.
Dites-nous tout.
Ah bon, on va parler de l'Olympico hier, du côté de Lyon. À 6 minutes, c'est ça. Très triste, spectacle.
Très triste,
on va parler avec les instances du football français, sans oublier aussi Zidane, qui est dragué par le PSG, voire par Manchester United.
Mais qu'est-ce que ne drague pas le PSG?
C'est ça.
Henri. Et aussi la première de Xavi avec Barcelone. Voilà.
Entre
autres, un invité de prestige, Alain Giresse.
Alain Giresse?
Voilà, ouais.
Ouais.
On l'aura par téléphone.
Nous allons tendre l'oreille. Bravo, mon cher Bilal Lendman, je vous reconnais bien. Bonne émission qui vous attend de 20h à 21h, Time Sport. Merci à la réalisation, à Yanis, à Giovanni. Merci, messieurs. On se retrouve demain avec autant de plaisir. On ne lâche rien. Ciao, ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.